Bonsoir. 24 heures après l'attentat de Barcelone et comme après chaque attentat à Paris, Londres, Manchester ou Bruxelles, de très nombreuses questions se posent quant à l'origine de la motivation des terroristes, à leur organisation. Sont-ils directement pilotés à distance, si je puis dire, par le groupe djihadiste État islamique qui a revendiqué cet attentat à Barcelone? Se sont-ils auto-radicalisés en lisant, en regardant sur Internet la propagande djihadiste? Font-ils partie de ce que l'on appelle les revenants, ces anciens combattants djihadistes d'origine européenne rentrés en Europe et qui échapperaient à la vigilance des services de renseignement ou qui, après un séjour en prison, reprendraient du service, mais cette fois en Europe, appliquant les préceptes d'un ancien compagnon de route de Ben Laden qui avait théorisé sur le djihad de proximité? Vous le voyez, une fois encore après l'attentat de Barcelone, les questions sont nombreuses. Alors, au-delà du drame, des victimes et de l'émotion, nous allons essayer ce soir de répondre à certaines de ces questions.
Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Et tout de suite, je vous présente nos invités. Sergio Altuna, qui est chercheur indépendant et enseignant en Espagne à l'Université nationale d'éducation à distance. Hassiem El-Difraoui, qui est politologue, spécialiste du monde arabe et du djihadisme, qui a notamment travaillé sur la propagande djihadiste. Olivier Chopin, qui est chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales, et à mes côtés pour vous interroger, Claude Guibal, qui est journaliste au service diplomatique de France Inter. Bien évidemment, pour poser vos questions, pour réagir par mail, c'est sur le site franceinter.fr, sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson, et enfin avec le téléphone, c'est le 01 45 24 7000.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Alors avant de retourner, d'aller au standard de France Inter, moi j'aurais deux questions à vous poser. Tout d'abord une question toute bête, est-ce qu'on est passé selon vous à côté d'un attentat beaucoup plus violent? Sergio Altuna.
En principe, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire avec un 100% de sûreté, mais la vérité c'est que les 3 ou 4 noyaux qu'on a vus bouger, parce qu'ils n'ont pas perpétré des attentats directement, semblent montrer vers cette direction. En principe, on pensait que ça s'agissait seulement de l'attaque avec la voiture, la fourgonnette à Barcelone, mais les forces sécurité de l'État ont commencé à travailler dessus, et paraît-il que ça pourrait avoir été un attentat un peu beaucoup plus grand, il faut le dire, si jamais toutes les hypothèses dont les forces de sécurité de l'État travaillent dessus se matérialisent. Mais ça reste encore une hypothèse, plutôt un interrogant.
Olivier Chopin, là, on a l'impression quand même qu'on n'est plus dans la logique de ce que l'on a appelé à un moment le loup solitaire. Là, il y avait quand même un groupe constitué et une stratégie.
Oui, et d'ailleurs, donc là, c'est clairement un groupe qui comportait plusieurs individus. La police fait aussi le lien avec un appartement qui avait explosé 8 jours auparavant, sans doute avec des explosifs qui étaient présents. Donc là, de toute façon, c'est clair qu'il s'agit d'un réseau, ou au moins d'une cellule d'un réseau qui est passé à l'action. Et de toute façon, la théorie du loup solitaire, elle a été remise en cause par les chercheurs qui ont pu montrer que la plupart du temps, les terroristes qui passaient à l'action avaient eu un lien, même fluide, avec des organisations terroristes plus structurées, soit en Europe, soit ailleurs.
Hassiem El-Difraoui, c'est fini ça, le djihadiste autoproclamé qui devient djihadiste uniquement en regardant Internet ou le Darknet?
C'est pas terminé, mais ça n'a jamais existé à un niveau de grande ampleur, c'est-à-dire le mythe du loup solitaire est justement critiqué. Il y avait toujours presque toujours un environnement et une organisation derrière. Donc, mais ce qui me frappe sur l'Espagne, c'est exactement que là, on semble d'avoir évité réellement un attentat d'une ampleur beaucoup plus grande, relativement structurée. Et il y a des gens qui ont soulevé aujourd'hui que l'Espagne était une espèce d'arrière-cour de Daesh. Ça c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais par exemple l'Espagne avait toujours, depuis très très longtemps, depuis les années 90, connu des réseaux djihadistes extrêmement puissants, soit des réseaux Al-Qaïda, soit des réseaux liés au JIA algérien, le prédécesseur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc il était évident que l'Espagne n'était pas complètement à l'abri.
Claude Guibal, cette région, là où on a retrouvé un certain nombre de ces djihadistes, elle n'est pas totalement inconnue pour les experts qui suivent les questions de terrorisme.
Oui, Azim El Defraoui vient de le dire, hein, l'Espagne est une zone qui est considérée depuis longtemps comme une plateforme importante pour le djihadisme international, une plateforme notamment de logistique. Et c'est le quotidien espagnol catalan, même plus précisément la Vanguardia qui le rappelle. Hein. Cambrils, cette ville où a eu lieu la nuit dernière une des attaques, c'est l'endroit où, en juillet 2001, le trésorier, hein, l'homme qui a réuni le financement des attentats du 11 septembre 2001, eh bien, c'est là qu'il a séjourné. C'est là, en partie, qu'ont été planifiés ces attentats. On sait aussi que le passeport, par exemple, qui a servi à Mohamed Atta, le chef du commando du 11 septembre, est un passeport qui avait été volé à Barcelone. Donc, on connaît, ça fait longtemps que cette région et ce pays et plus précisément cette région, la Catalogne, est quand même dans le viseur des agences de renseignement comme un endroit, une plateforme effectivement, une plaque tournante du djihadisme international.
Et Olivier Chopin, si on connaît, comme le dit Claude Guibal, ces régions et l'activité djihadiste qui peut s'y dérouler, on a du mal à imaginer, nous modestes citoyens, voire touristes, que ça continue.
Ben, écoutez, le paradoxe, c'est que, effectivement, bien sûr, l'ensemble de ces réseaux est connu des services de renseignement et fait l'objet de surveillance. Mais après, il est toujours difficile d'identifier la cellule qui va passer à l'action ou le moment où une action va se déclencher. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de faiblesse structurelle à anticiper les attentats. Il est certain que les terroristes ont toujours la main sur l'agenda. En revanche, ce qu'on observe, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, que ce soit à Manchester ou à Bruxelles, les enquêtes progressent très vite une fois que les attentats ont eu lieu, parce que le moment où l'attentat a lieu, c'est un point de dévoilement de la structure opérationnelle qui était capable d'agir à un instant T. Donc, si vous voulez, à la faiblesse de la détection, qui est vraiment le gros point faible des dispositifs d'anticipation des attentats aujourd'hui, répond quand même la rapidité, généralement, des enquêtes et le fait qu'on parvient quand même à déstructurer les réseaux une fois qu'ils ont frappé. Mais à nouveau, là, il y a une contradiction avec la logique de renseignement, parce que si vous déstructurez tous les réseaux qui sont susceptibles de vous frapper, ben, vous ne pouvez plus non plus les surveiller, vous pouvez manquer des connexions avec d'autres cellules ou d'autres réseaux qui fonctionnent. Donc la logique de renseignement est toujours en tension avec l'anticipation de la menace. Il faut savoir agir juste à temps, sans dévoiler ses cartes et sans risquer en quelque sorte, de perdre des capacités de compréhension du phénomène.
Alors, dans une question de Bernard sur le site franceinter.fr, y a-t-il un ou plusieurs pays européens qui ne sont pas sous la menace d'attentats djihadistes et pourquoi ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question, Assiem El Defraoui ?
Oui, on peut répondre à cette question. Il y a zéro pays européen qui est à l'abri de ce genre de menaces. C'est-à-dire, les djihadistes sont frappés où ça semble opportun, où ils ont des possibilités. Des pays qui étaient relativement neutres étaient déjà frappés. Si on regarde par exemple aussi les pays balkaniques, je pense notamment à la Bosnie par exemple, des pays qu'on regarde pas trop. C'est vraiment des foyers aujourd'hui aussi de djihadisme. Donc je pense personne n'est réellement à l'abri du djihadisme. Mais je voudrais revenir sur une remarque qui vient d'être faite sur le démantèlement des réseaux, qu'une fois un attentat a été commis, on va relativement vite. C'est malheureusement pas toujours vrai. On se souvient de la chasse à l'homme sur un des assassins des attentats de Paris, qui était en lien étroit avec ceux qui ont commis les attentats horribles à Bruxelles. Donc, c'est-à-dire il y a quand même encore de grandes lacunes au niveau de la coopération internationale. Il y a des gens qui commettent des attentats dans un pays pour réorganiser des attentats dans un deuxième pays. Donc, je ne peux pas partager cette point de vue relativement optimiste.
Claude Guibal.
Oui, alors moi j'ai une question. Comment se fait-il qu'un pays qui est donc considéré au moins depuis 2004, et vous l'avez dit Azem Drefraoui, depuis les années 90 déjà, comme une plateforme, un endroit important pour le djihadisme, comment un pays comme l'Espagne a-t-il produit finalement, très relativement, moins de combattants djihadistes qui sont partis en Syrie ou en Irak? En France, on parle d'environ 200 combattants partis en Syrie et en Irak. En France, on est plutôt proche du millier. Alors, comment expliquer que finalement, il y a eu si peu de départs? Lequel d'entre vous répond?
Monsieur moi, je ne suis pas grand spécialiste de l'Espagne, mais les Espagnols eux-mêmes ont argumenté pendant assez longtemps que, par exemple, l'intégration des ressortissants du Maghreb se faisait, spécialement en Catalogne aussi, beaucoup mieux qu'en France, mais ça, c'est qu'une réponse partielle. Ce qui est intéressant avec l'Espagne, c'est peut-être notamment que les gens ne sont pas partis parce que c'était la plateforme, c'était un centre logistique pour le djihad international, où les gens se sont peut-être dit on a mieux à faire de partir en Syrie.
Sergio Altuna, votre sentiment aussi là-dessus, pourquoi l'Espagne finalement n'est pas une base importante de départ pour le djihad?
Le point qui vient d'être mentionné est très correct et très précis. L'Espagne a joué un rôle très important depuis les années 90-95 comme plateforme logistique, comme plateforme d'organisation, comme pays à cheval entre le Maghreb et l'Europe, comme pays qui a un caractère aussi très méditerranéen, très proche de l'Afrique, dont on a partagé une histoire assez plus proche et étroite que peut-être même avec la France et l'Europe. Il ne faut pas oublier que les Pyrénées étaient une barrière géographique assez difficile de franchir jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Par contre, le Méditerranée reste quand même bref, un lac. D'un autre côté, un point qu'il faut souligner, c'est qu'en Espagne, les musulmans dans ces cas, et on ne va pas parler plus directement des converts, mais les musulmans sont de première ou de deuxième génération. Et c'est avéré depuis des études qui ont été menées dernièrement que des problèmes d'identité se posent beaucoup plus dans des citoyens de troisième génération. Peut-être en Espagne, on vient encore des générations qui ont été nées dans ces pays, surtout dans le Maroc, dans l'Algérie, qui ont eu aussi une bonne base religieuse parce qu'ils ont étudié là-bas, que ce soit à côté, par la madrasa, et qui n'ont pas ces questions d'identité. Peut-être les questions et les problèmes d'identité de se trouver en Europe, mais avec des racines arabo-musulmans ou simplement musulmans, se posent beaucoup plus aux troisième et ultérieure génération, et ça n'a pas encore arrivé en Espagne, en le comparant avec la France, comme vous disiez.
France Inter, Philippe Lefebvre. Le téléphone sonne.
Direction le standard du téléphone sonne. Nous allons à Paris dans le 14e retrouver Stan. Stan, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Bon, ma question, elle est simple. Comment se fait-il que nous, les Français, nous n'ayons pas été capables de respecter, par exemple, la parole de Victor Hugo qui dit on ouvre une école, on fait une prison. Aujourd'hui, nous n'avons éduqué personne. Tout le monde s'occupe du problème de l'argent. Or, nous avons devant nous des gens qui sont simplement influencés par manque de culture. Et donc, nous sommes responsables de ces gens-là parce que nous avons rendu la non-culture. Je parle des banlieues, je parle des jeunes. Hier, j'ai rencontré un gamin de 14 ans qui est rome, qui vient de Roumanie, ça fait 14 ans qu'il est en France, il est né presque là. Et il a subi les agressions de policiers qui l'ont déstabilisé tout le temps d'un camp à un autre.
Alors ça c'est le problème des Roms, ce que vous avez pu constater près de chez vous dans le 14e, c'est une autre question. Mais sur la question de la culture, Olivier Chopin, on a entendu d'ailleurs il y a quelques heures d'anciens magistrats devenus hommes politiques aujourd'hui dire oui, de toute façon, les djihadistes ce sont pas des super-héros, des super-combattants, mais ce sont plutôt des gens qui ont un QI de 2. Vous en pensez quoi?
Oui, ça me paraît quand même un peu compliqué de les catégoriser comme ça, parce que il y a aussi tout un discours consistant à dire voilà, ils sont soit un peu fous, soit un peu limités intellectuellement, soit désocialisés. bon, sur le très long terme et sur la masse des gens qui nous frappent, c'est quand même pas aussi clair que ça. Après, là, la remarque de votre auditeur renvoie à une question au fond philosophique. C'est certain qu'on est obligé de jouer sur deux temporalités en même temps. Sur le court terme, il faut essayer de se prémunir des attaques et protéger évidemment les populations le mieux possible. Sur le long terme, il est certain que seule l'éducation permettrait de résoudre les problèmes de fond. Mais là, comme chacun l'a constaté, nous n'avons pas de doctrine structurée sur ce point. On a des appels à réfléchir à la question. Il y a un engagement de plus en plus important maintenant des sciences sociales, de l'université, auprès des services de l'État, des services de police, de renseignement, de justice, pour essayer de comprendre ces phénomènes dans leur dimension sociologique, dans leur dimension sociale ou psychologique. Donc il y a un investissement plus fort. Après, c'est vrai que si on lit ça à une question générale de société, est-ce que la société n'est plus capable d'éduquer ses enfants et que c'est cela qui génère la violence? Bon, c'est une discussion qui dépasse le cadre immédiat de la réaction aux attentats, mais il est certain que sur le long terme, l'éducation sera plus efficace que des politiques de sécurité ou répressives.
Alors, le Claude Guibal, le djihadiste inculte, pour abruti, comme le disait l'ancien juge Bruguière tout à l'heure, c'est un mythe?
En tout cas, très récemment, un rapport fait par une équipe de chercheurs, une équipe pluridisciplinaire, a mis en lumière le fait qu'il n'y avait pas finalement vraiment de profil type. Ça serait un petit peu facile, effectivement, de voir systématiquement le jeune déculturé, avec un passé criminel, etc. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, bien évidemment, mais c'est très très réducteur de cantonner tous ceux qui participent à la mouvance djihadiste dans ce cadre-là. On dit aussi souvent que c'est des gens qui sont complètement incultes en religion. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent des radicalisations rapides, mais qui n'empêchent pas nécessairement l'intention et la densité, en fait, de la connaissance religieuse qui va s'acquérir à toute vitesse. Il y a une volonté d'aller très loin. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que chez chacun, en tout cas, il y a la volonté, finalement, d'identification à une communauté opprimée. Il y a dans la vie de ces personnes-là à un moment une rupture qui provoque ensuite cette radicalisation, mais on l'a vu déjà dans le passé aussi, hein. On parlait tout à l'heure du 11 septembre, les terroristes qui ont commis les attentats du 11 septembre n'étaient pas du tout des jeunes incultes, complètement désocialisés ou quoi que ce soit, pas du tout. C'était des étudiants, des fils de bonne famille, qui faisaient pour certains leurs études à l'étranger. On n'est donc pas dans une catégorisation aussi réductrice qu'on voudrait peut-être la voir, peut-être par justement sentiment d'impuissance.
Oui, parce qu'il y a une mythologie qui semble se mettre en place. Il y a cette histoire d'éducation des djihadistes. Il y a aussi ce qu'on nous a dit, tous les djihadistes qui viennent faire sauter leur ceinture d'explosifs ont tous pris des produits stupéfiants avant de passer à l'acte.
Oui, grand mythe du Catagon, oui, par exemple, qui était aussi là, et les spécialistes qui sont nos invités ce soir pourront revenir là-dessus, mais qui a souvent été évoqué comme le Catagon, la drogue des djihadistes, la drogue qui permet de passer à l'acte. Je pense que c'est peut-être là aussi une façon de vouloir s'empêcher de penser qu'il y a une forte détermination derrière ces actes et que certains n'ont pas du tout besoin d'être drogués pour passer à l'acte.
Olivier Chopin, entretenir cette mythologie, c'est pas parce que, comme le disait Claude, on est finalement pas très bon, quoi. On n'arrive pas à se débarrasser de ce problème.
Bah, la mythologie, elle est quand même, si vous voulez, produite par un certain nombre de discours plus ou moins convergents. Alors ce sont des frustrés sexuels, ce sont des défaillants mentaux, ils ont fait trop de jeux vidéo violents, ou alors effectivement ils prennent des drogues, etc. Bon, dans tous les cas, si vous voulez, ça renvoie de la part du dispositif de sécurité et de la société qui est blessée, à la fois à un sentiment d'impuissance et à une sorte de sentiment de supériorité qui est généré par le désarroi lié aux attentats et à leur répétition. C'est-à-dire qu'on veut à la fois les déshumaniser ou les dévaloriser tout en montrant que ce n'est pas de notre propre impuissance que vient le problème. Donc là, la difficulté, si vous voulez, elle est beaucoup plus politique. Il faut admettre que les gens qui portent ces actions, soit qu'ils les décident, qu'ils les conçoivent, soit qu'ils les mettent en œuvre, ont des idées politiques, se réfèrent à des formes idéologiques et se placent eux-mêmes dans un rapport ami-ennemi qui est clair et qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire qui va jusqu'à la violence, jusqu'à l'idée de donner la mort ou de la recevoir. C'est quand même beaucoup des terroristes qui finissent morts sous les balles des policiers ou des forces spéciales de sécurité dans le cas des attentats. Donc il y a un jusqu'au boutisme politique qui doit être pensé comme tel, et les démocraties pour l'instant ont énormément de mal à penser cette forme d'inimitié, c'est-à-dire que nous avons des discours de guerre, nous avons des discours comme quoi ce sont nos ennemis, mais nous ne savons pas réellement porter une doctrine ou une stratégie clair vis-à-vis de cela, parce que le terrorisme renvoie à la fois une logique de guerre qui peut être extérieure, internationale, et elle renvoie toujours à des fractures internes des sociétés. Donc c'est un objet politique qui est très très complexe pour la science politique, par exemple, à décrire, et qui est toujours difficile à circonscrire. Donc je pense que ça vient très largement de là. On cherche des moyens simples d'explication qui vont réduire la complexité et qui vont justement réduire à des profils simples, et vous le montriez très bien à l'instant, alors qu'il n'y a pas de profil type de ceux qui nous menacent.
Retour au standard du téléphone sonne, nous allons à Estouches, où nous attend Philippe. Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Je voulais dire ma tristesse vis-à-vis de l'attentat de Barcelone et de l'autre, j'ai partenu la ville, mais surtout ma colère vis-à-vis des autorités espagnoles. Il est visible que les attentats de Nice n'ont pas eu de répercussions dans la mentalité de protection de ce genre de manifestations, principalement piétonnes. Et ce fut le cas aussi à Berlin avec le marché de Noël. Voilà.
Alors, Olivier Chopin, c'est vrai que c'est, on le retrouve beaucoup dans les mails ce soir sur le site franceinter.fr. On dit, mais un rassemblement de foule, il n'y avait pas de bornes en béton comme on peut les trouver dans Paris ou maintenant en Allemagne ou aux États-Unis. Il y a eu peut-être un raté de ce point de vue-là.
Bah, écoutez, oui, à chaque fois qu'il y a un drame de ce genre, c'est qu'il y a eu un raté. Et rétrospectivement, je pense que les autorités espagnoles se mordent les doigts de ne pas avoir pu sécuriser l'espace public, comme en France, par exemple, autour des principaux lieux de rassemblement possibles ou à l'occasion des manifestations. On place des objets, des blocs en béton, on va mettre en place des dispositifs de surveillance ou des camions, etc. Mais après, si vous voulez, ce mécanisme qui consisterait à tous réagir en fonction des attentats qui ont lieu partout sur toutes les logiques, la plupart des gouvernements refusent d'entrer dans cette logique parce que c'est une forme de course sans fond. Nous savons que d'une manière ou d'une autre, les terroristes trouveront, c'est-à-dire par exemple si l'Espagne sécurise ses espaces, quelqu'un va passer à pied avec une Kalachnikov et tirer dans la foule. Enfin, c'est pas ça en soi qui va interdire l'idée du passage à l'acte, et il y a X moyens de porter la mort, malheureusement, avec des moyens plus ou moins sophistiqués ou plus ou moins rustiques, et on voit la gamme mortifère s'étendre d'attentat en attentat. Donc parfois des attentats vont se reproduire, et chaque fois on va se dire « mais on savait que c'était une possibilité », donc on sécurise ce que l'on peut, par exemple la sécurité aérienne est uniformément appliquée à l'échelle de la planète. Il y a des pays ou des zones où c'est moins rigoureux, mais par exemple, il est impossible de prendre un avion vers les États-Unis ou que ce soit de la planète sans passer par des dispositifs de sécurité. L'Europe fait contrôler également en amont, dans tous les aéroports du monde, des vols qui viennent sur notre territoire. Mais par contre, si vous voulez sécuriser un espace public, ou après les attentats dans les trains, après l'attentat du Thalys, on avait évoqué l'idée de mettre en place des dispositifs identiques aux aéroports dans les gares, et on a conclu qu'on ne pouvait pas le faire, parce que si vous mettez le même degré de sécurité dans les gares que dans les aéroports, pratiquement vous allez mettre un terme au trafic ferroviaire, parce que c'est pas gérable en termes de flux. Je ne sais plus exactement combien de millions de gens passent Gare du Nord tous les jours sur l'ensemble des réseaux de transport, mais c'est au moins plus d'un million, donc c'est impossible de gérer ces choses-là. Donc voilà, ouais, le gouvernement espagnol maintenant a fait une erreur, les terroristes ont choisi ce mode opératoire parce qu'il était possible de l'utiliser. Mais on peut malheureusement craindre que si l'espace public avait été sécurisé et qu'il n'était pas possible de passer avec un camion, ils auraient choisi un autre mode opératoire pour porter l'attentat.
Sergio Altuna, c'est vrai que on est habitué aux guerres et aux combats conventionnels. Là, on est face à ce que les proches de Ben Laden appelaient il y a quelques années le djihad de proximité. Et ça, c'est difficile de le combattre parce que c'est la guérilla urbaine, pratiquement.
Ouais, c'est vrai qu'on est dans une démarche maintenant où on s'est habitué au terrorisme low cost. Et comme le collègue là vient d'expliquer d'une façon très très confuse, parfaite, je dirais, ça suffit de commencer à travailler au-dessus de fermetures ou de mettre des barrières dans des grandes rues ou des endroits très visités ou très fréquentés pour que la tendance change vers une autre idée. Donc dans ces cas, je pense que malheureusement, c'est difficile de prendre la main aux terroristes. Sûrement, ils développeront encore une technique pour frapper là où il est plus facile pour eux et plus difficile de les détecter de la part des forces de sécurité de l'État. Et sur ces points-là, on avait aussi un monsieur qui est connu pour tout le monde, Abu Moussa Abessouri, qui a beaucoup théorisé aussi sur le djihad, en particulier sur le djihad individuel, une chose dont il y a beaucoup de débats maintenant. En Espagne, par exemple, s'est avéré qu'un 78% de personnes radicalisées étaient en contact avec un noyau, que ça soit familière, que ça soit de proches, que ça soit dans une mosquée, etc., qui n'existe plus. Mais c'est vrai que pour entrer en action, on n'a pas besoin aujourd'hui de plus d'une personne convaincue et quelques instructions qui peuvent même être reçues à travers un téléphone portable. Donc dans cette démarche de terrorisme low cost, le fait d'avoir mis des barrières pourrait peut-être avoir empêché un attentat comme celui qu'on a vu, mais peut-être pas celui dont tout le monde pense, avec les bouteilles de gaz qui ont explosé hier matin et qui auraient pu rentrer d'une façon habituelle dans la même fourgonnette et avoir explosé là-bas aussi.
Assim El Difraoui.
Oui.
Vous souhaitez réagir?
Je souhaite réagir là, sur plusieurs points. Là, on parlait de l'éducation. L'éducation, c'était une chose très importante. L'éducation, certains djihadistes européens ont vécu que des échecs scolaires. Là, on a parlé des profils de djihadistes, mais surtout encore des profils de djihadistes européens, sur lesquels on sait certaines choses, que en gros, deux tiers sont issus de l'immigration, qui sont dans une situation de désavantages socio-économiques, qui sont isolés de leur société. Mais on tourne autour du pot. À savoir, le djihadisme a complètement d'autres racines, des racines très graves. Ces conflits au Proche-Orient, un conflit en Syrie qui a maintenant fait à peu près 300 000 morts, et en Irak, où la reconquête de Mossoul a probablement fait des dizaines de milliers de morts. Des régimes autoritaires en Égypte qui sont dans une politique de répression et poussent de jeunes Égyptiens vers le djihadisme. La situation en Libye qui se trouve en guerre civile, où il y a encore des foyers de djihadistes très fortes. Donc il y a toute cette mouvance djihadiste et on ne va pas arriver au bout du djihadisme qu'avec les mesures en Europe, améliorer l'éducation, discuter des politiques de déradicalisation ou de prévention. Il faut prendre le mal à la racine. Il faut développer une politique cohérente vis-à-vis nos voisins de la sud de la Méditerranée. Ça va être une politique difficile, coûteuse, qui ne va pas uniquement être militaire. Il faut vraiment voir ces gens comme nos voisins et investir massivement dans des aides socio-économiques, faire en sorte que les dictateurs qui se remettent en place ne peuvent pas agir de la façon qu'ils veulent. Et sinon, on va être confronté avec ce problème pendant des décennies encore. Et tout ce qu'on fait en Europe jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt un petit pansement, la discussion politique sur le djihadisme en Europe, especially en France, et pas discuter ouvertement. Parce qu'en effet, ça met en danger une fragile équilibre politique qui a peur que les vraies causes soient discutées.
Olivier Chopin, on a parlé là de la théorisation du djihad, ce que j'ai appelé le djihad de proximité. C'est quoi exactement cette théorisation et quels sont les préceptes de cette théorisation?
Ah, écoutez, moi je suis pas du tout un expert du djihad en tant que tel, là peut-être que mes collègues pourront répondre mieux, mais c'est vrai que dans les doctrines et d'Al-Qaïda tardive et puis de l'État islamique, il y a des appels, en fait, vous voyez, il y a un schéma à configuration multiple. C'est-à-dire, si vous pouvez venir en Syrie ou en Irak porter le djihad et le combat, venez. Si vous ne pouvez pas, ben, restez là-bas et agissez. Si vous pouvez vous appuyer sur des moyens importants du type arme à feu, explosifs, parce que fabriquer une bombe ou un gilet explosif, c'est pas donné à n'importe qui, même si il y a des légendes qu'il y a des plans sur Internet et qu'on pourrait les recomposer, etc. Sinon, bah, prenez un couteau et attaquez le premier policier que vous, militaire que vous croiserez, et puis essayez de faire un maximum de victimes civiles en mourant martyr. Donc, il y a effectivement des doctrines qui ont été portées et qui permettent en fait d'espérer toute une gamme d'actions. Mais à nouveau, là, il ne faut pas imaginer que des gens vont se radicaliser tout seuls, uniquement. Enfin, c'est pas le modèle dominant. Il y a quand même un schéma, un chemin qui mène jusqu'à l'idée de passer à l'action et de prendre quand même la responsabilité de porter une violence extrême et de la subir à la fin soi-même.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Allez, nous allons au standard retrouver François de Gand. François, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Et bonsoir à toute la France et à toute l'Europe et à toute l'humanité. Moi, j'ai une question qui me travaille beaucoup. Je comprends pas pourquoi, et je soumets la question à vos invités, pourquoi on ne s'attaque pas aux intérêts financiers de ces gens-là qui sèment la terreur et la mort et des milliers de décès qui continuent à souffrir. Et je comprends pas pourquoi on ne boycotte pas des pays qui, dont on sait qui subventionnent ces gens-là, ces terroristes, qu'ils soient de Daesh ou d'ailleurs. Et on va même envoyer nos sportifs faire du show là-bas. Je trouve ça dégueulasse, mais je suis écœuré, quoi. Et ce soir, je voudrais leur dire haut et fort, j'ai pas peur non plus, je suis comme les Espagnols, je suis un être humain et je ne mourrai pas assis, mais si je meurs, je mourrai debout comme les camarades de Charlie Hebdo.
Merci François. Claude Guibal, ça c'est l'éternel problème depuis le début, s'attaquer à l'argent du terrorisme, ou en tout cas aux financiers du terrorisme.
Alors, faut-il encore savoir de quel terrorisme on parle et de terrorisme de quelle ampleur? Est-ce qu'on parle du financement des armées, des djihadistes qui aujourd'hui combattent en Syrie, ou est-ce qu'on parle par exemple aujourd'hui de ce qui nous occupe aujourd'hui de l'Espagne, c'est-à-dire un attentat commis avec des moyens financiers relativement limités? Il s'agit de la location d'une fourgonnette, on l'a vu à Westminster également, on l'a vu à Nice, on n'est pas dans des dispositifs financiers extrêmement compliqués. Un drame comme celui qui s'est passé à Saint-Étienne-de-Rouvray, ne nécessite en termes de financement que très très peu de choses. On est aujourd'hui dans un terrorisme qui est extrêmement léger en termes d'application. Et c'est pour cela d'ailleurs que je voulais en profiter pour revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure un de nos invités, Sergio Altuna, qui a mentionné le nom, par exemple, d'un homme qui est Abou Moussab al-Souri, qui est un Syrien, un prédicateur syrien, né en Syrie, mais qui a vécu en Espagne, qui a la nationalité espagnole. Et vous disiez tout à l'heure, Sergio Altuna, qu'il jouait un grand rôle dans l'importation du djihad en Europe et la façon dont il appelle à le pratiquer en Europe, un djihad qui est pas nécessairement, lui, très lourd financièrement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la théorie d'Abou Moussab al-Souri et quelle est son influence sur les djihadistes en Europe?
Aujourd'hui, il ne faut pas seulement focaliser sur Abou Moussab al-Souri. En parlant de financement, c'est vrai, comme il était posé dans la question, qu'il y a plusieurs types de financement, et peut-être un des financements qui ne va pas directement vers les armes, donc le moyen pour produire des attentats, mais qui finance des idéologies. On peut mentionner le wahhabisme, on peut mentionner le salafisme, on peut mentionner les différents courants de pensée qui sont sémés pas seulement dans le monde arabe ou dans le monde musulman, mais aussi dans le monde occidental, où plusieurs mosquées ou plusieurs centres d'études, etc., sont financés par, très souvent, par des monarchies de Golfe autoritaires et autocrates qui prennent un pensée qui ne coïncide pas du tout et qui est totalement contraire à ce qu'on a. En parlant d'Abou Moussa Al-Soury, maintenant, on a tout un corps de pensée, que ce soit à Al-Qaïda ou que ce soit dans l'État islamique ou DH, qui laisse plutôt choisir à la personne qui est convaincue ou qui est en train de se radicaliser, quel est le moyen, quel est le chemin le plus court vers là où il veut arriver. Il y a les chemins ouverts, il y a les SAP, la pratiquer la jihad obligatoire, sans rentrer dans le débat sur le fard ayn ou le fard kaf, c'est pas nécessaire d'approfondir dans ce sens, où on a les portes ouvertes pour aller en Philippines, pour aller au Sahel, ou même en Syrie, en Irak, où il est devenu plus difficile, ou en Libye. Mais on a aussi un corps entier de pensée radical dans le sens où un combattant, une personne qui veut militer dans ce courant de pensée radicale peut rester chez lui pour essayer aussi de faire le maximum de dégâts possibles et pour arriver au même terme. Et dans ce sens, on peut mentionner pas mal de penseurs ou théoriciens comme Abou Moussa Al-Soury ou aussi l'Américain qui était aussi de nationalité yéménite. Ah là, j'ai oublié son nom, je m'excuse, qui a travaillé aussi sur la jihad aux médias. On trouve aussi beaucoup de textes, un corps entier, pour des gens qui veulent rester chez eux et pratiquer une jihad médiatique, donc traduire, écrire, publier, diffuser. On trouve vraiment toutes les options pour les gens qui veulent participer et pour qu'ils se sentent activement... Alors, dans le corps de la Oma comme il le perçoit.
Alors, une autre question qui revient beaucoup sur le site franceinter.fr, je vous la résume. Le pire n'est-il pas à venir avec le retour de tous les anciens combattants djihadistes, Assiem El-Ifraoui?
Le pire, je ne sais pas.
On pense aux combattants djihadistes d'origine européenne, hein, bien sûr.
Oui, ça me semble évident. Le pire, je ne sais pas, mais... Il y a de grands risques. Il n'y a pas uniquement des risques des attentats dans les médias. Il y a un grand risque de recrutement. Comme dans le moment fondateur de djihadisme, de la guerre contre les soviétiques en Afghanistan, les ex-combattants jouissent d'un énorme prestige, d'une espèce d'aura charismatique. Et on peut déjà constater, par exemple dans le prison français, ou aussi dans les autres prisons européens, que ces ex-combattants jouissent d'une statut spécial, donc très respecté. Et là, beaucoup de chercheurs craignent qu'ils sont capables de recruter, de former de nouvelles cellules, de recruter de nouvelles sympathisants au djihadisme, et que les conséquences, on ne le verra pas immédiatement, mais peut-être dans 5, 10, 15 ans, où il y aura de nouvelles cellules et de nouveaux réseaux djihadistes qui vont se établir en Europe. Donc là, il y a un énorme travail à faire. On n'a pas trouvé de recettes miracles, de solutions. La France a par exemple expérimenté dans le prison avec des quartiers dédiés aux djihadistes. Ça n'a pas super bien fonctionné parce qu'ils se sont sur-radicalisés. Ils ont essayé même d'organiser des tentatives de meurtre dans le prison. Donc c'est une problématique considérable à laquelle on va être confronté.
Allez, retour au standard du téléphone sonne. Nous allons dans le 8e arrondissement de Paris retrouver Thierry. Thierry, bonsoir.
Oui,
Thierry, bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci de prendre la question. Effectivement, c'est pas tout à fait dans la ligne des questions qui étaient précédemment posées, mais ma question, elle est sur le choc culturel qui existe entre l'Occident et une certaine forme d'islam qui est très radicale et qui est très liberticide, notamment vis-à-vis de la femme. Et ma question est la suivante, est-ce qu'il n'y a pas un choc culturel qui rend finalement une forme d'incompatibilité ou en tout cas de difficulté très forte à faire coexister ces deux cultures?
Olivier Chopin.
Bah écoutez, c'est vraiment une question... global qui dépasse ma compétence scientifique, mais c'est vrai que le débat est régulièrement posé en ces termes d'une incompatibilité structurelle. La question après, c'est de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parlerait d'une incompatibilité fondamentale d'une religion dont certaines versions extrêmes montreraient l'incompatibilité, ou est-ce qu'on parle de l'incompatibilité des formes extrêmes, les formes fondamentalistes ou les formes radicalisées d'une religion en particulier? qui ne serait pas compatible avec la modernité républicaine, démocratique ou libérale. Bon, si c'est le premier cas, écoutez, là, franchement, c'est un débat sur lequel je ne peux pas du tout trancher. Si on parle des radicalités, l'ensemble des radicalités sont assez incompatibles avec la modernité, si vous voulez. Il y a des radicalités chrétiennes, des radicalités culturelles, on le voit très bien là, en ce moment avec Charlottesville aux États-Unis, produites par nos propres sociétés, qui ne sont pas du tout compatibles avec les valeurs démocratiques ou avec les modes de fonctionnement républicains. Là, je crois que ma réponse serait plutôt que de poser cela comme d'une manière un peu essentielle, comme s'il y avait une essence d'une religion qui n'était pas capable de s'adapter, ce qui me paraît pas clair du tout. Je pense qu'il y a des effets politiques, il y a des instrumentalisations politiques, il y a des méprise politique ou des quiproquos aussi. C'est vrai que la France est souvent identifiée comme une cible particulière ou privilégiée parce que notre tradition de la laïcité est perçue comme combattante, militante. Les questions comme celle du voile, de l'interdiction du voile dans l'espace public sont très mal perçues dans un certain nombre de communautés ou dans un certain nombre de pays comme des gestes très agressifs à l'endroit d'une religion en particulier, et ça peut mener à des formes de radicalisation. Après, c'est pas du tout un discours d'excuse hein, que je tiens ici. Il y a un problème qui se pose en ce moment avec une forme radicale qui passe à la violence contre la modernité, ce qu'on appelle la modernité politique, qui est liée à l'idée de la démocratie, du pluralisme, du respect de la règle de la majorité, et dans ses formes sociales, une forme de libéralité très forte dans les mœurs et dans les rapports hommes-femmes en question. Mais là, on est dans une question qui confine à la philosophie politique, si vous voulez, et sur lequel il me paraît très très difficile de trancher radicalement.
En tout cas, vous pouvez le constater, ce débat est loin d'être clos, malheureusement, si je puis dire. En tout cas, il est clos pour ce soir. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve lundi, ici, à la même heure. Et cette fois, nous parlerons d'un sujet beaucoup plus léger, puisque nous parlerons du tourisme durable. Très bonne soirée sur Inter.